entre les Mouchmaï au Kassai oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous combattre au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Heureux de vous retrouver pour ce 57 minutes interactives sur la fréquence de la paix qui vous accorde à nouveau la parole. Après l'évaluation d'un roulement dans le nord, Oumangui, la CENI a lancé les opérations dans 12 nouvelles provinces hier lundi 12 décembre 2016. Par ailleurs, le président de la CENI évalue l'ensemble des besoins du processus électoral à 1,8 milliard de dollars américains, soit près de la moitié du budget national. Corneille Nangaa affirme aussi que le calendrier électoral est techniquement prêt. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Pierrot et la Mégie est standard et en même temps la réalisation de cette émission. Jean-Claude Sala à la mise en onde de ce programme supervisé par Martin Tebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocafi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Jusqu'à 9h avant que nous entrions dans ces studios, ce sujet a été lu et commenté par près de 1893 personnes. Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez, que vous accordez donc à ces sujets. Jean-Claude, vous êtes à Kindu et Jean-Jérôme Brosso, qui est analyste sur les questions électorales et président de l'INELIT, est avec nous. Jérôme Brosso, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, cher Niger, et bonjour à tous les nombreux auditeurs de la radio Capi, Radio de la Paix.
Alors, c'est l'occasion pour nous d'en parler aux auditeurs, d'évaluer le processus électoral. On sait tout de même que l'évaluation d'enrôlement dans les Nord-Oubangui a été faite par la CENI, et qui, juste après, vient de lancer les opérations dans 12 nouvelles provinces, depuis hier lundi 12 décembre. Mais entre-temps, la CENI évalue l'ensemble des besoins du processus électoral à 1,8 milliard de dollars américains, soit près de la moitié du budget national. Et Corneille Nangaa affirme aussi que le calendrier électoral est techniquement prêt. Comment vous commentez-vous cette actualité?
Bon, c'est une actualité qui nous préoccupe nous tous, parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de l'enveloppe top level pour le financement des opérations électorales, il faut se tenir compte que, parce que nous avons tout voulu accumuler tout ce qu'on devait faire, qu'on n'a pas tenu compte de la planification. Parce que quand on planifie les opérations électorales, quand on planifie les échéances électorales, on doit tenir compte de la budgétisation de cela, et à quelle échéance, et à quelle étape, et à quel moment on doit décaisser le fonds, et à quel moment on doit mobiliser le fonds pour les disponibiliser. Il ne suffit pas que les opérations déjà programmées, et on se met maintenant à mobiliser le fonds. C'est ce qui cause beaucoup de retard, et étant donné même les échéances programmées ne sont pas réalisées. D'où on a tout, la CENI avait tout intérêt, et tous les partenaires techniques et financiers mettent le paquet en marche pour que tout soit déjà préparé à l'avance, et une fois que les opérations déclenchées, qu'il n'y ait pas de couac. Mais aujourd'hui, la CENI vient de lancer le fichier électoral. Pourquoi aujourd'hui on met beaucoup d'importance au fichier électoral? C'est parce que nos dirigeants, nous n'avons pas eu le temps de faire le recensement depuis 1984. Dans des pays où le recensement s'est fait automatiquement, on ne recourt pas au fichier électoral comme problème, on dépense beaucoup de moyens financiers, humains, matériels pour la construction du fichier électoral, et ça part automatiquement. Pourquoi nous disons aujourd'hui la CENI est en train de s'investir pour arriver à fiabiliser le fichier électoral? Parce que le fraude électorale à travers le monde passe par le fichier électoral. Partant du fichier électoral, on doit produire des listes électorales fiables. Mais si toutes les conditions ne sont pas réunies, on va arriver à une élection chaotique, étant donné que la base n'était pas solide.
Alors, monsieur Jean, Jérôme Bosso, vous êtes le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. Après l'accord de 18 octobre 2016, on imaginait déjà le calendrier publié. Aujourd'hui, le président de la CENI affirme que le calendrier est techniquement prêt. Il va falloir attendre encore quelques négociations avec ou quelques consultations avec les parties prenantes au processus.
Oui, vous savez, il y a des paramètres qui interviennent dans l'organisation des élections congolaises. Et l'opinion doit retenir que les élections que nous voulons organiser au Congo, ce sont des élections atypiques, ne sont pas des élections classiques. Parce que quand les gens se mettent en tête que nos élections sont classiques, c'est là ils se perdent. Aujourd'hui, on ne peut pas produire un calendrier. On peut faire ce quoi que ce soit sans qu'il y ait un consensus électoral. Ça veut dire quoi? Il y a un problème politique. Le problème politique, c'est le problème politique lié au problème technique. Donc, il faut porter des doubles lunettes, lunettes à double foyer, foyer politique et foyer technique. Quand bien même la CENI peut faire cette tentative de publication du calendrier, qui est un outil de planification des décisions et de suivi des opérations électorales, étant donné qu'il n'y a pas un compromis politique, ça échoue. Et l'histoire nous rappellera que la CENI a fait trois tentatives de publication du calendrier électoral. Aucune n'a réussi. Aucune tentative de planification du calendrier a réussi. C'est pourquoi il y avait un blocage politique. Et c'est pourquoi nous avons dit, au niveau de la ligne élite, au niveau de l'AIT, nous avons dit qu'il faut tout d'abord, en amont, qu'on trouve un consensus électoral. Le consensus électoral, c'est le produit du dialogue politique. Parce qu'à la fin du dialogue, on dégage un consensus. Nous l'avons serré dans nos analyses techniques. Même nous avons été rejoints par les experts de l'Union européenne, les experts de l'OIF, qui ont dit qu'on devait tenir les élections congolaises dans le délai constitutionnel si on pouvait faire le dialogue entre le 1er janvier 2016 et le 30 mai 2016. Passé cette période, on ne peut plus rêver aux élections dans le délai constitutionnel. Mais la classe politique n'a pas voulu nous écouter. La classe politique était au milieu pour dire élections délai constitutionnel. Et nous nous sommes posé la question, quel contenu technique et politique vous donnez au délai constitutionnel? Et aujourd'hui, tout le monde s'est trouvé devant un fait accompli. C'est pour nous disons, les élections congolaises, nous le répétons, sont des élections atypiques à l'heure qu'il est, et ça nécessite un consensus politique, et ça nécessite aussi des moyens qui doivent répondre aux techniques. Pour faire la réforme du fichier électoral qu'on est en train de faire, et les machines qu'on doit utiliser, qu'on devait utiliser, qu'on va utiliser, puissent être machines adaptées au climat de nos provinces. Donc, là, on peut s'en sortir, parce que la CENI a donné le délai, qu'il va faire son travail pour viabilisation du fichier électoral jusqu'au 31 au mois de juillet 2017. Pour terminer c'est 2017, il va terminer ça. Et ce que nous disons, si les machines vont poser des problèmes, des caprices techniques, mais on ne va pas arriver à cela. Nous sommes encore obligés de connaître encore un glissement électoral.
Merci beaucoup, Jérôme Bosso. Nous vous gardons en ligne parce que c'est vous qui faites des débats avec nous, avec les auditeurs qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et vous êtes notre invité. Nous rappelons que vous êtes le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT, aussi, membre de la société civile. Merci beaucoup, Jérôme Bosso, 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kevin Couté sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Plusieurs analystes techniques ont évalué le processus, comme vient de le faire d'ailleurs notre invité. Le point de vue des uns et des autres sont partagés. Dans l'ensemble, il est constaté que plus de 3 mois après la décision de la Cour constitutionnelle enjoignant la CENI à publier un calendrier réaménagé, cette dernière ne s'est toujours pas exécutée. Les responsables de la CENI affirment en effet que le calendrier est techniquement prêt, je l'ai dit tantôt, mais il faut attendre le résultat des consultations des parties prenantes au processus pour les publier. Une opinion rappelle que telle n'est pas la mission assignée à la CENI et ses dirigeants par la Constitution et la loi organique. Elle appelle les dirigeants de la CENI plutôt à faire preuve d'indépendance et exécuter la décision de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la publication urgente d'un calendrier réaménagé et aussi conformément à l'accord politique du 18 octobre. Alors d'autres par contre estiment que la CENI devra plutôt attendre l'issue des négociations directes du centre interdiocésain entre les signataires de l'accord du 18 octobre et les non-signataires pour une large inclusivité afin d'obtenir aussi un large consensus autour de ce prochain calendrier. Alors quelles sont vos analyses ? Jean-Claude, vous êtes à Kindou, bonjour.
Oui, bonjour Jérôme Longembo et bonjour aussi à l'invité, M. Jérôme Bosso de la plateforme AETAE.
Est-ce que vous partagez l'avis qu'aujourd'hui nous sommes dans les cas des élections atypiques et non des élections classiques et il va falloir qu'on puisse réellement accepter certaines réalités
et faire attention. Non, mais moi, bien sûr, moi je pense que cette thématique, dans cette thématique il y a à boire et à manger, Jérôme. Je pense qu'une fois, le président de la République, juste je vais vous souvenir, sinon votre mémoire, lors d'un congrès, je pense que c'était en 2014, fin 2014, début 2015, le chef de l'État avait dit, j'ai instruit, sinon j'ai demandé à nos amis de la CENI d'attendre. Il avait dit ça, Urbi et Urbi. Il avait dit, j'ai dit à nos amis de la CENI d'attendre d'abord. À un moment donné, nous aussi, on avait dit qu'il y avait une complicité négative entre les pouvoirs en place et la CENI. Il y avait ceux-là qui nous avaient fait foi et les autres qui avaient dit que non, c'était pas à l'ordre du jour. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment la CENI est en train de tâtonner. Ça fait au moins trois fois que la CENI est en train de publier un calendrier, mais ce calendrier ne tient pas debout. Aujourd'hui, Jean-Robert, nous avons entendu tous, comme vous, le président de la CENI qui nous avait dit que non, il faudrait, pour le budget global, c'est 1 milliard 800 millions de dollars américains. C'est-à-dire la moitié, n'est-ce pas, de notre budget. Le pauvre budget de plus ou moins 3,5 millions ou 4, je ne sais pas moi. C'est trop malheureux. Aujourd'hui, vous voyez comment juste. Parce que moi, j'étais agent de la CENI en 2005. J'avais fait l'enrôlement. En 2011 également, j'avais travaillé à la CENI. Et vous voyez, ça n'avait pas pris tout le temps qu'on est en train de nous proposer. Aujourd'hui, c'est comme qui dirait, c'est pour la toute première fois depuis la session à l'indépendance que notre pays est en train d'organiser les élections. Et on nous fait croire que ces élections ici qui vont se tenir, ce sont les élections uniques. C'est comme si on n'a jamais tenu ce genre d'élections. C'est les élections les plus démocratiques au monde. Alors que tout ça, c'est une malignité, c'est une fourberie que la majorité, juste avec la CENI, sont en train de projeter pour prouver à la fois, pour dire à la face du monde que non. En tout cas, tout doit être prêt à un moment donné, il faudrait ça, ça, ça. Alors que c'est comme si c'est quelqu'un qui est en train de demander la ligne. Moi, je dis que c'est une question de volonté politique. Il faudrait qu'il y ait une dose de volonté politique pour que tout puisse aller dans le sens du meilleur. Aujourd'hui, bien sûr, nous saluons l'enrôlement, par exemple, ici chez nous, à Kinou, mais avec quel retard? C'est que même Jérôme Bosso, avec tous les observateurs objectifs, avait souligné, sinon avait demandé la nécessité, il y avait une nécessité absolue. Quand aujourd'hui, même si peut-être demain, nous avons la 50 en train d'organiser notre dialogue, et si ça ne tient pas, on dira que non, il n'y aura pas des élections jusqu'en 2030, jusqu'en 2040, jusqu'à ce que nos politiciens tiendront mordicou. Alors qu'en 2006 ou en 2011, il n'y avait pas ce genre de dialogue pour pouvoir nous dire que non, il faudrait un consensus. Moi, j'ai dit tout simplement que c'est une question de volonté politique, Jérôme.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup, Jean-Claude, parce que à la Deuxième République, nous rappelons à ceux qui sont de cette génération qu'il y a eu effectivement des élections qui ont été organisées autour des années 96-87, où nous avons élu, je crois, je les répète, ceux de cette génération s'en souviennent, où on avait élu les députés Djulamba Moleka, pour ne pas les citer, il y a eu tant d'autres qui sont sortis de cette législation à cette époque-là, de cette législature. Et en la Troisième République, les premières élections ont été organisées en 2006 et la deuxième élection en 2011. Donc on peut dire depuis ce sens qu'il n'y a pas eu des élections. Bon, c'est un débat, le débat est engagé, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites autour de cela et je crois que les experts comme Jérôme Bosso ou encore d'autres peuvent témoigner qu'il y a eu effectivement des élections qui ont été organisées bien avant, donc en Deuxième République et aussi à la Troisième
l'ordre public pour dire que nous nous engageons dans cette voie de la démocratie. Merci beaucoup, Jean-Claude. Maître Jean-Paul, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Bonjour à l'invité.
Quel est votre avis? Est-ce que vous partagez l'avis de l'invité qui parlait tout à l'heure que nous sommes dans une réalité tout autre parce que c'est nos élections, les élections que nous organisons, ce sont des élections atypiques et non des élections classiques?
Bon, nous sommes devant une contrainte que chacun de nous doit pas se soumettre à cette obligation qui est le glissement des élections. Mais c'est avec pincement au cœur que moi j'interviens pour fustiger le bilan qui a été fait par le président de la CENI. Le président de la CENI doit savoir qu'il est membre de la société civile, d'une communauté religieuse qu'il avait déléguée, n'est-ce pas, pour défendre les intérêts de la nation congolaise. Le président de la CENI n'est pas le premier à organiser les élections dans ce pays. Vous trouverez qu'il est le premier à bloquer les élections. Vous vous souvenez les fameux dialogues qui s'est passé ici, le qui est pendant. On l'avait invité comme expert parce qu'il connaissait que c'est lui qui connaît toute technicité d'où devrait émaner les blocages. Ça ne nous évolue pas. Je ne crois pas que le président de la CENI doit se tenir là pour les intérêts.
Oui, je crois que Jean-Paul.
Pour les intérêts du peuple congolais.
Oui, maître Jean-Paul, est-ce qu'on peut revenir un peu au sujet? C'est vrai, parce que bon, on va éviter quand même de faire des jugements de valeur et parler des individus. C'est vrai, il y a cette machine électorale, la CENI, qui vient de lancer depuis hier les opérations dans 12 nouvelles provinces. Et également qui affirme que aujourd'hui l'ensemble de besoins du processus électoral est évalué à 1,8 milliard de dollars américains et que le calendrier électoral est techniquement prêt. Quel est le commentaire que vous faites sur ces trois points qui font l'actualité?
Et je vous en êtes donc vous êtes.
Quel est le regard que vous avez, Jean-Paul, pour gagner du temps?
Vous donnez raison. Oui, bien sûr, on ne va pas faire un jugement de valeur. Mais oui. C'est lui qui représente la CENI. On a étendu ici même en Bandaka, on a commencé l'enrôlement. Et vous vous souvenez, il n'y a pas plus longtemps qu'on avait même pris les cautions des candidats députés provinciaux. S'il n'y a pas la volonté politique, s'il n'y a pas la volonté de nous amener devant les élections crédibles.
Merci beaucoup Jean-Paul, je crois qu'il en va aussi pour ceux qui vont intervenir. Restons dans le point inscrit dans les débats, notamment les opérations qui sont lancées dans le province, également le budget, le besoin évalué à 1,8 milliard de dollars américains, et c'est que le calendrier électoral qui est techniquement prêt selon le président de la CENI. Dieu merci, vous êtes à Manono, on va gagner du temps. Quels sont les commentaires que vous avez par rapport à ces débats?
Bonjour, monsieur le journaliste. Il y a un problème par rapport au lancement. Nous félicitons la CENI parce que même le vice-président de la CENI, Robert Kadikima, quand il a été à l'Académie, il en a parlé par rapport au mouvement des populations, par rapport à ce lancement des opérations d'enrôlement. Dans les Tanganyika, c'est trop pur. Il y a des villages qui sont vidés de population, mais on voit le bureau de la CENI qui organise des formations des agents électoraux, bien des agents qui vont travailler dans les centres d'inscription. On se pose des questions, finalement, on va enrôler qui? C'est là qu'on interpelle aussi, comme à Marano ici, nos politiciens. Où est-ce qu'ils regardent? Parce qu'on ne sait pas si on aura combien de personnes qui seront enrôlées pour participer au vote. Maintenant, c'est un grand territoire, monsieur le journaliste, mais on se pose des questions. C'est pas Marano à moins de sièges au niveau des assemblées. On se pose des questions. Et chaque fois qu'il y a un désenrôlement, il y a des mouvements de population. Comme présentement, où aujourd'hui je vous parle, il y a des mouvements forts de population. Ça, c'est un pour le fond. Mais les gens veulent obliger la CENI de faire quoi? La CENI est un service technique de l'État. Il est chargé d'organiser les élections. Mais si la CENI fait l'évaluation, mais les gens se demandent vers contraindre de la CENI de donner un faux chiffre. Si la CENI donne un faux chiffre qui est moins ou bien qui est inférieur par rapport au chiffre bien en montant qui convient pour l'organisation des élections, est-ce que les élections auront lieu? Ça, c'est la question que tout le monde doit se poser. Par rapport au calendrier, oui, la CENI, c'est le service technique, mais pour publier son calendrier, elle doit être rassurée. Et nous avons autant d'argent, nous avons des fonds qui vont nous permettre d'organiser les élections. On ne peut pas publier un calendrier qui ne sera pas réalisé. Ça, ça sera comme l'aventure pour le compte de la CENI. Voilà pourquoi moi, je suis d'accord avec cette évaluation de la CENI, mais qu'on sera t-il d'abord du budget qui va permettre d'organiser les élections, M. le journaliste.
Merci beaucoup, Dieu merci d'avoir appelé des Manono pour avoir soutenu la CENI dans sa démarche. Est-ce que cet avis est partagé par Darius, qui est à Kamina? Darius, bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs. Darius, vous êtes avec nous? Voilà, les temps que la ligne de Darius s'améliore, on revient à vous, Jérôme Bosso, vous êtes encore avec nous.
Je suis avec vous.
Voilà, alors quelle est la réaction par rapport à l'intervention de tout à l'heure de Jean-Paul? Au fait, aujourd'hui, les gens sont un tout petit peu sceptiques, hein, on comprend un peu l'appréhension, tous les doutes qui, en fait, entourent leurs interventions. Quelle est la réaction que vous avez? Parce qu'en disant que ce sont des élections atypiques, d'autres ne partagent pas cet avis, et s'il faut, en amont, disons, chercher des moyens pour publier les opérations, il y a les uns et les autres qui ont parlé dans cette émission qui n'ont pas partagé également cet avis. Alors, que répondez-vous aux uns aux autres?
Je pense que les compatriotes doivent comprendre, du moins ce qui concerne le consensus que nous voulons. Parce qu'à l'heure qu'il est, quelle est la séquence électorale? Par quoi, par quelle élection allons-nous commencer? Les uns disent qu'il faut commencer par l'élection présidentielle et législative. Ceux qui étaient au dialogue à la Cité de l'Union africaine, ils ont levé l'option en ce qui concerne la séquence. On commence par l'élection présidentielle, combinée, couplée avec l'élection de députation provinciale et députation nationale. Ceux maintenant au niveau de la CENCO, les autres qui sont venus rejoindre ceux de la Cité de l'Union africaine, ils disent non, il faut commencer à faire l'élection présidentielle. Vous voyez, à ce moment-là, quel calendrier la CENI va opter pour faire les élections? Si l'option levée par le dialogue de l'Union africaine, ou bien l'option levée qui serait levée par le compatriote qui sont à la CENCO? Voilà la difficulté politique qui bloque la CENI. Parce que la CENI est l'émanation de politique. La CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, donne le calendrier, le quatrième calendrier pour dire moi je fais ça, et à la fin on décide, non il faut faire comme les amis de l'Union africaine ont décidé, ça sera difficile. Mais en quoi, en ce qui concerne le budget, a des rubriques, il y a des rubriques budgétaires, rubrique rémunération, rubrique opération, rubrique investissement et autres rubriques. Il faut voir quelles sont les rubriques qu'on pourrait réduire pourvu qu'on arrive à cet argent. Mais l'argent qui est demandé, ce n'est pas pour l'élection seulement présidentielle. C'est pour tout le cycle électoral. Par cycle électoral, nous attendons la députation nationale, la députation provinciale, les élections locales, urbaines et municipales. C'est ça qu'on a programmé, qu'on est allé au-delà pour que nous puissions régulariser le cycle électoral. À ce moment, nous venons à une situation normale et on regarde même de notre constitution que le législateur congolais a décidé à créer à 7 ans, les élections puissent avoir lieu 5 ans, périodiquement après 5 ans. Mais aujourd'hui, les élections ne voulons les tenir au regard des dispositions constitutionnelles. Non, ça ne pense pas. Pourquoi nous disons que c'est atypique? L'ami qui vient d'intervenir a dit qu'on a donné l'argent pour l'élection d'habitation provinciale. L'argent est parti comme ça. L'élection n'a pas eu lieu. Est-ce que si c'était les élections classiques, est-ce qu'on allait en manquer à ce rendez-vous? Nous disons non. C'est pourquoi nous devons, je suis content avec les investissements, les interventions des uns et des autres. Nous devons nous investir, faire pression sur les partis prenantes au procès électoral. l'opposition, la majorité, les partis politiques même, la communauté internationale et nous-mêmes, pour que nous puissions arriver à régulariser le cycle électoral. Alors nous verrons dans une situation normale. Mais maintenant, mes chers amis...
Ben alors, techniquement parlant, vous, en tant qu'expert sur cette question, est-ce qu'on peut quand même évaluer de manière un peu isolée chacune des élections, notamment la présidentielle, les députés nationales, députation nationale et puis députation provinciale, le budget dans l'ensemble?
Oui, techniquement c'est possible, mais ça nous prendrait un peu du temps, ça nous prendrait le temps d'un électeur dans un bureau de vote. Un électeur dans un bureau de vote peut faire entre une et trois minutes, mais avec les trois élections couplées, un électeur va faire au moins sept minutes dans un bureau de vote.
L'ensemble des
à ce moment-là, les élections seront prévues pour... La loi dit qu'il faut que les élections s'éteignent dans 24 heures. Non, ça sera prévu pour deux ou trois jours. Pour arriver, parce que nous attendons, il y a un corps électoral qui estime à plus de 40 millions d'électeurs. Quand vous prenez 40 millions d'électeurs, vous ne mettez pas 7 minutes, vous ne mettez pas le nombre de millions de votes, on ne peut pas faire ça le même jour. Et c'est pourquoi nous disons, quand on a une élection politique, il faut s'assumer des aléas techniques. Les alliés qui nous vont vous dire que c'est faisable parce qu'il y a pression politique, on va tribler les élections,
oui,
on va pour résoudre le problème.
Oui, mais M. Bosso, je reviens encore sur ma question, de manière un peu isolée, l'ensemble du besoin pour une élection présidentielle, ça peut tourner autour de combien? Et aussi d'un côté, nous faire une idée sur les chiffres, le coût de l'élection de la députation nationale ainsi que de la députation provinciale.
Oui, nous avons, les amis ont bien dit.
Oui, de manière intérieure, ça peut aller autour de combien?
Non,
on
ne peut pas s'hasarder de donner un chiffre sans avoir des données juridiques. Ça va nous coûter combien pour les opérations?
Alors,
aujourd'hui, les 1 milliard là, c'est ne pas faire comprendre que c'est une question du vote électoral. Toute l'enveloppe que la Sénat est déjà en train de dépenser, ça entre dans le 1 milliard 8, c'est l'ensemble du vote électoral.
Tout ça
a été déclenché.
Oui, pour les trois
élections.
Pour les trois élections.
Oui.
Pour l'ensemble des opérations.
Oui.
Ben alors là, il faudrait quand même éclairer l'opinion. Est-ce pour les trois élections qui seront organisées en 2018 ou c'est pour uniquement les opérations commencées par les opérations d'enrôlement, le nettoyage du fichier électoral,
l'ensemble de tout, jusqu'à tous les cycles, parce qu'on ne va pas encore chercher l'argent pour les élections locales, municipales et urbaines. C'est l'ensemble de ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si l'option est levée par la classe politique, pour dire nous voulons ce qui est priorité, par exemple, faisons l'élection présidentielle. La preuve sera réduite. Si l'option est levée, faisons l'élection présidentielle, ouvrons l'élection législative nationale. Et la preuve sera réduite à la baisse. Si on dit quelles sont les lignes budgétaires, les lignes budgétaires que nous consommons, si on voit les rémunérations, si on voit le fonctionnement, si on voit les opérations, où est-ce qu'on peut charcuter pour arriver à faire parce qu'on doit faire la politique de ses moyens.
Tout à fait.
Là, on va s'en sortir. Mais d'abord, on ne peut pas dire le chiffre c'est trop ou bien c'est moins. Parce que nous avons fait les élections en 2006. Nous avons fait les élections en 2011. Il y avait des matériels. Si on avait eu la chance de capitaliser tous les matériels qu'on avait eu, les valises satellitaires et autres, le coût allait être réduit, le bureau de vote et autres, vous vous souviendrez qu'en 2006, on n'avait pas payé les agents électoraux. Tout comme en 2011. Certains agents étaient partis avec l'été. Tout était parti. Si tout cela était ensemble, on n'allait pas faire encore des dépenses des véhicules et des sites de groupes électrogènes. C'est le problème.
Merci
c'est notre incapacité de conserver les choses. D'archiver les choses.
Merci beaucoup Jean-Jérôme Bosso. Nous vous gardons en ligne et nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que vous êtes le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes et membre de la ETA et aussi spécialiste expert en questions électorales. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. En ce moment, près de 2000 personnes ont lu et commenté ce sujet sur notre page Facebook. Une fois encore, nous vous disons merci. Sylvain, vous êtes à Bounia, vous nous avez rejoint. Dominique, vous êtes à Mbujimayi. Sylvain, bonjour.
Bonjour, je voudrais saluer le président Dominique, envers qui j'ai beaucoup d'estime. Je voudrais par commencer à appeler la population de l'Ituri, puisque je suis en Ituri, à participer massivement dans cette opération de l'arrondissement de Vélefer. Puisque je suppose que cette opération est très capitale pour la vie politique de l'Ituri et de la RDC en général. Alors si je rentre sur le thème du jour, je voudrais aussi vous rappeler l'article 210 de notre Constitution, qui charge la Commission électorale nationale indépendante d'organiser régulièrement le processus électoral au Congo. Et je ne voudrais pas ici aborder la question comme les amis l'ont fait auparavant, puisque nous sommes effectivement devant un fait accompli, c'est que nous sommes dans les retards d'organisation des élections. Mm-hmm. Maintenant, si je me marie à l'idée de ce qui était au dialogue qui a eu lieu ici le 18 octobre dernier, vous allez vous rendre compte que le chapitre 5, dans son article 8, qui stipule sur la civilisation du processus électoral, cette grande mission a été accordée à la CENI. Et je voudrais que les gens puissent comprendre ces éléments correctement. La première mission, c'était celle de renforcer la sensibilisation autour de cette opération. Ça veut dire du cycle électoral, à commencer par l'enrôlement jusqu'à l'organisation des élections. Selon l'esprit de cet accord, c'est qu'il y a possibilité qu'on organise les élections présidentielles et législatives nationales, similaires avec les élections locales. Et donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation très avancée, comme nous l'avons vu en 2006, où non seulement la CENI est laissée comme la seule actrice, mais le gouvernement, les acteurs non étatiques, ça veut dire les associations faisant membres de la société civile, l'Église catholique et consorts. Donc, nous devons participer dans cette sensibilisation. La deuxième mission qui a été donnée, c'était d'augmenter les effectifs des agents électoraux au niveau de la CENI, puisqu'on supposait. Et ça, je parle peut-être en me plaçant parmi les gens, disons, en me plaçant ou en plaçant le monde comme si j'étais au dialogue, c'est qu'on a supposé que pour qu'on aille vite aux élections, pour que les opérations réussissent, il faut augmenter le nombre qui existe. Je me pose une question aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai du mal à poser cette question puisque l'invité qui est là n'est pas de la CENI. Est-ce qu'effectivement on a augmenté le nombre des agents électoraux? Et ça, je crois que peut-être que la CENI devait nous répondre. Troisième élément, il fallait doter les agents chargés de la sécurisation du processus électoral des moyens adéquats pour assurer la sécurité, surtout des biens électoraux qui sont sensibles. Entre autres, bientôt, nous allons acheminer les bulletins de vote dans les centres d'inscription. Et donc, il faut que ceux qui vont assurer cette sécurisation-là soient dotés de moyens conséquents. Quatrième mission, il faut augmenter le nombre de votes et l'approcher le plus vite possible, le plus possible à la population. Il va aller voter. Puisque nous avons connu en 2011 des bureaux qui étaient très éloignés de la population, et comme je le dirais très loin, dans l'une des grandes missions qui ont été dévolues à la CENI, il faut tenir compte de certaines spécificités des personnes qui ont certaines déficiences. Je vais parler ici des personnes malvoyantes, des personnes vivant avec handicap, des mamans enceintes, tout ça. Donc, voyez-vous, ce sont des éléments pour lesquels on doit tenir compte. Je me pose aujourd'hui la question si réellement il y a eu des mécanismes mystérieux qui sont mis en place par rapport à ça. Je voudrais dire aussi.
Oui, rapidement.
Je voudrais terminer par là. L'élément essentiel aujourd'hui, monsieur Gère, c'est l'implication des partis politiques dans ce processus. Il me semble qu'aujourd'hui, les gens veulent laisser cette opération de l'enrôlement à la seule CENI. Non. Les acteurs majeurs à cette opération, ce sont les partis politiques qui doivent concourir au cyclage demain. Et je me dis, ces partis politiques aujourd'hui, et d'ailleurs, pas comme on appelle pour les partis politiques basés à l'Ituri, on doit sensibiliser les militants. On doit mobiliser les observateurs électoraux pour que jamais ces élections nous amènent vers la paix. Puisque j'ai toujours dit, les élections pour nous constituent les chaînes de la stabilité
merci.
De l'État.
Merci beaucoup.
Si on l'organise mal, ça peut causer beaucoup de conséquences.
Merci beaucoup, Sylvain. Vous avez plutôt reconnu les attributions de la CENI, conformément à l'article 211 de la Constitution, et également vous avez évoqué l'article 5 de l'accord du 18 octobre qui définit encore les missions assignées à la CENI pour arriver à un aboutissement heureux du processus électoral en RDC. Merci beaucoup Sylvain. Dominique, vous êtes en Bujimaï, bonjour.
Bonjour JR.
1,8 milliard de dollars américains, l'ensemble des besoins évalués par la CENI pour les processus électoraux, les cycles électoraux. Les 12 nouvelles provinces ont déjà bénéficié de ce lancement des opérations, l'enrôlement depuis hier, et puis le calendrier électoral qui est techniquement prêt. Quel est votre commentaire, Dominique?
Oui, merci bien JR. Là, l'homme de la CENI série du peuple congolais au nez, hein. Imaginez-vous, il nous sort un chiffre comme ça, 1,8 milliard. Oh, comme vient de dire Jérôme Bosso, que j'ai salué, cet homme, j'ai entendu il y a longtemps où il pleurait, où il disait toujours qu'il y a péril à la demeure. J'ai suivi cet homme-là qui parle encore jusqu'à aujourd'hui, je suis très content. Écoutez-moi, aujourd'hui, la CENI est en train déjà de travailler. Elle travaille avec quel budget? Parce que tous les jours ici, elle était toujours en train de travailler. Ce budget-là, c'est le budget de 2015 ou bien celui de 2016 ou bien c'est quel budget? Et ce qu'elle nous demande là, c'est pour combien d'années? Lorsqu'on nous dit que c'est pour toutes les élections, c'est pour tous les processus, s'il vous plaît, ce processus-là commence quand? Est-ce qu'il a déjà commencé? Il va commencer quand on va louer ou bien je ne sais pas. Et quand il dit ça, nous pensons c'est que ces hommes que l'on avait envoyés en son temps à la CENI sont en train de faire. Ils roulaient pour quelqu'un, mais aujourd'hui ils ne savent plus le faire. C'est ainsi qu'ils nous sortent.
Voilà. Alors Dominique, on doit être réaliste. Nous sommes au mois de septembre, si ma mémoire est très bonne, ou un peu plus avant, au mois d'août. Le Premier ministre est interpellé par une question orale avec débat au niveau du Parlement. Il s'explique sur le processus électoral en disant clairement qu'il y a eu effectivement des montants qui étaient donnés comme acompte à la CENI pour déjà commencer le processus. Nous sommes dans le dialogue de la cité de l'Union africaine. Le Corneille Nanga affirme d'avoir commencé le processus depuis le mois de janvier ou février, si ma mémoire est très bonne, comme pour dire, pour répondre à ceux qui se posent sans doute la question de savoir quand est-ce qu'on a commencé le processus. Et la réponse est claire, je crois que sous réserve de Jérôme Bosso ou d'autres experts sur la question technique des élections, qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est déjà très engagé dans le processus, et vous vous souvenez, il y a un auditeur qui l'a dit tout à l'heure, qu'il y a eu déjà des cautions qui ont été déposées pour l'organisation même de l'élection provinciale. Donc, je crois qu'on est déjà très engagé, mais l'ensemble des besoins a été évalué à 1 milliard. Jérôme Bosso l'a dit, c'est possible que cela puisse être revu à la baisse, si jamais on séparait les élections et si cette option est réellement levée autour des dialogues. Est-ce que M. Serge, qui est à Kamina, partage cet avis? M. Serge, vous êtes avec nous? Oui, M. Serge, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous, hier. Bonjour, bonjour.
Oui, vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Oui, moi je crois que, en tout cas, avec tout ce qu'on est en train de faire comme calcul, je ne sais pas, on s'est basé sur quoi. Hein? Et d'abord, les personnes là qui vont travailler là-bas, on doit leur donner combien? Puisqu'il y a un qui est dans la fiche de liste électorale. On avait trompé, on va vous donner 150
euros. Maître Serge, s'il vous plaît, restons dans les sujets. Les salaires des agents électoraux, ce n'est pas le sujet du jour. Et nous vous promettons, aujourd'hui, on devait avoir d'ailleurs le président de la CENI, Il nous a promis la semaine prochaine, sans doute, il viendra répondre à toutes les préoccupations pour lesquelles nous on fait des analyses avec la société civile, le regard de la société civile. C'est pourquoi nous avons invité Jérôme Bosso, qui a travaillé et qui a toujours débattu de cette question avec nous, dans Parole aux auditeurs, depuis 4-5 ans maintenant qu'on est en train de faire cette émission. Donc le problème, ce n'est pas la question du salaire des agents électoraux, mais la question aujourd'hui, le besoin, l'ensemble du besoin a été évalué à 1,8 milliard de dollars américains. Le calendrier est techniquement prêt. Quel est le commentaire que vous avez par rapport à cette actualité?
Ok, merci pour ça en tout cas. Bon, nous sommes en train de regretter. Le problème c'est quoi? Est-ce qu'on va organiser les élections? Ces élections vont se battre d'abord ici chez nous à Cannes. Et c'est une province ou c'est une ville seulement qui est particulière comme ça. Il n'y a même pas de mairie jusque-là. Et ils sont en train de regretter.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Je crois que la question là trouvera sa réponse lorsque nous allons recevoir le président de la CENI la semaine prochaine pour répondre à toutes ces questions. Docteur Bintou, vous êtes à KPC. Je crois qu'on va rester dans les sujets. 1,8 milliard, le calendrier est prêt et puis la CENI va publier après les négociations ou encore les consultations avec les partis. Docteur Bintou, avez-vous un commentaire?
Merci beaucoup, Gérard. Merci de la parole. Bonjour à tous les auditeurs. Bon, le premier constat qu'il faut faire de ce budget-là, c'est une exagération de la part de la CENI dans la présentation de son budget. Étant donné qu'il présente un budget qui prend les 50% du budget national. Mais après les élections, les gens ne vont pas manger, les gens ne doivent pas faire autre chose, faire seulement les élections. Ça, c'est une exagération. Et d'ailleurs, dans ce qui concerne la priorisation des élections, c'est ce qu'il faut faire. La CENI ne doit pas faire la politique. Elle doit rester neutre, puisque la priorisation des élections nous conduit la RDC aujourd'hui à résoudre la crise sur le plan national. Ce n'est pas une crise locale, ce n'est pas une crise régionale, c'est une crise locale, une crise nationale. Ce qui veut dire qu'il faut les élections présidentielles et les élections législatives. C'est ce qui pose problème. Dans les histoires des élections locales, je pense que ceux qui sont dans les dialogues doivent se mettre d'accord pour décanter la situation afin qu'on puisse organiser en priorité les élections présidentielles et les élections législatives pour résoudre la crise. S'il faut entrer dans les budgets, selon le programme de la CENI, la CENI avait prévu d'enrôler 42 millions de personnes sur 18 000 bureaux de vote. D'après les calculs simples, si vous prenez 42 millions de personnes divisé par 18 000 bureaux de vote, vous allez trouver que chaque bureau de vote va enrôler au moins 2333 personnes si nous mesurons si cela peut se faire dans un mois. S'il y avait la volonté politique de mettre les moyens, prenez 42 millions divisé par 18 000, vous trouverez qu'on aura, de chaque bureau pourra enregistrer 2333 personnes par bureau de vote si cela se passe pendant un mois, 30 jours. Et si pour chaque bureau de vote va enregistrer 78 personnes par jour pendant un mois. Ce qui fait que s'il y avait une volonté politique et qu'il y avait des moyens disponibles, on pouvait commander tous les matériels, tous les types, ramener au pays, les distribuer et déclarer, et faire en sorte que l'enrôlement se fait sur l'ensemble du pays pendant un mois et on pouvait diminuer de 11 mois les histoires de la CENI qui a prévu plus de 17 mois. C'est beaucoup, c'est exagéré, et ça c'est politique. Et maintenant, pour celles-là qui sont en train de se réunir, puisque la CENI, c'est un organe technique, la CENI n'a pas de décision à prendre, elle dépend de la politique. C'est ainsi que nous demandons à ceux qui se réunissent aujourd'hui avec la CENCO, afin de privilégier l'intérêt du pays. Trouver que ce qui pose problème aujourd'hui pour résoudre la crise, c'est le problème présidentiel, l'élection présidentielle, c'est mettre la force sur ça, mettre leurs intérêts à côté. L'histoire de partage de pouvoir pour devenir ministre, devenir vice-président, ça ne nous engage pas, ça ne nous concerne pas. Ce qui est important aujourd'hui, qu'on puisse résoudre la crise politique et qu'ils se mettent d'accord sur ce point-là. En fait, concerne le calendrier électoral. Il faudrait que le calendrier soit raccourci. Il ne faut pas les histoires d'avril 2018, c'est très loin et ça va créer encore d'autres problèmes inutiles. On doit réduire les délais en fonction de l'élection présidentielle et législative. Et pour terminer, il faut impliquer la communauté internationale. Puisque la République démocratique du Congo n'a pas de moyens. Un pays qui présente un budget de 4 milliards de dollars et où un seul organe, la CENI demande 1,8 milliard.
Ouais, donc le budget ne restera que de 2,5 milliards, donc 2,2 milliards pour les restes des deux pour être les pays. Non, c'est impossible. Il faut impliquer la communauté internationale dans l'accord qu'ils vont signer pour qu'ils puissent libérer les moyens afin qu'on puisse commander les restes matériels et que l'enrôlement se fasse sur l'ensemble du pays simultanément pour les restes des provinces. Et à ce moment-là, le budget sera réduit et nous allons vivre notre première alternance politique. Il faudrait que ceux qui s'héritent encore puissent donner des garanties à l'actuel chef de l'État. Après le pouvoir, il ne sera pas inquiété. C'est ce fait qui pose problème. Lorsqu'il a peur, quand voilà. Le pouvoir sera inquiété, à ce moment-là, il va chercher à résister. On lui donne la garantie qu'après le pouvoir, il sera un homme libre, il pourra se déplacer
voilà, merci
normalement.
Merci beaucoup, Dr. Bintou, d'avoir appelé et de nous avoir fait un peu de calcul. Hein. C'est vrai, bon, je m'étais un peu perdu dans les chiffres, mais Jérôme Bosso pourrait nous aider quant à ce. 42 millions pour, disons, l'assignation, hein, la mission qui s'est assignée, la CENI, 42 millions d'électeurs, répartis dans 18 000 bureaux de vote. Jérôme Mbosso, vous êtes avec nous? Oui, Jérôme Bosso, vous êtes avec nous?
Je suis en ligne, oui, je...
Voilà, je disais tout à l'heure, il y a le docteur Bintou qui nous a fait quelques réflexions par rapport aux chiffres, d'ailleurs. La CENI attend 82 millions d'électeurs pour être enrôlés. Ils ont réparti sur 18 000 bureaux des votes, et ce qui fait qu'on peut enrôler 2333 personnes par mois. Voilà, ce qui revient à dire pour lui, en tout cas, le travail, si on le fait avec des moyens concomitamment ou simultanément dans toutes les provinces, au même moment, le temps sera réduit et ça pourrait permettre aussi de réduire les coûts. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, je suis intéressé par sa réflexion parce que la CENI, le corps électoral attendait des 42 millions avec 18 000 millions de votes. Et avant lui, il y a notre collègue, notre ami qui est devenu, qui a dit qu'il n'était pas mieux d'augmenter le nombre d'agents électoraux pour faciliter le temps si l'option serait levée de tripler les élections. Oui, tout ça, il faut tenir compte du coût. On est d'accord. Si aujourd'hui la classe politique lève l'option de faire trois élections le même jour, ou bien dans deux, trois jours, parce que ça nous prendra du temps, on peut le faire, mais ça va nous coûter combien? Parce que dernièrement, on a calculé un électeur congolais allait nous coûter $35 par électeur de bureau de vote. Mais si nous allons faire ça, un électeur va nous coûter plus, au-delà même de $50. Où est-ce que nous aurons l'argent? Quand le problème ne se pose pas, mais quand la volonté y est, on peut s'en sortir. Mais du moins, nous disons, on peut réduire la durée d'enrôlement, mais il faut tenir compte aussi quel type de machine d'enrôlement nous utilisons. Il y a des plaintes, il y a des caprices techniques. Il y a certaines machines qui ont des configurations, ne répondent pas aux conditions climatiques qui sont les nôtres. À l'équateur, dans le nord Ubangi, certaines machines, parfois, électeurs se prêtaient, ça chauffait, on bloquait la machine. Il fallait chercher sous forme de ventilateur traditionnel. On devait aérer la machine. Et tout ça, ça prend du temps. Mais du moins, quand on dit, l'autre ami dit avec 2300 par bureau de vote, ça, vous n'avez pas intégré le risque. Là, on peut dire planifier, on peut faire quoi, mais on peut intégrer le risque. Ça fait le point au cas où. Parce que nous sommes sûrs qu'avec tout ce qui est une programmation technique, ça ne répond pas de A à Z. À un bon niveau, ça peut être bloqué. Donc, il faut être réaliste à ce niveau-là. Et c'est pour nous dire, aujourd'hui, avec 42 millions d'électeurs attendus, pour avoir un corps électoral connu, maîtrisé, et gouvernement de chantier avec des élections de 2011, il y a eu des problèmes. Ça va donner aussi problème de financement. Mais le fonds de financement ne pourrait pas se poser parce que nous avons eu l'expérience. La communauté internationale nous avait aidé aux élections de 2006. Mais 2011, c'est le gouvernement congolais, plus de 90%. Et à ce moment-là, si on s'engage et que la confiance puisse naître lors du consensus qu'on est en train de chercher et à la CENCO et à la Cité de l'Union africaine, on peut s'en sortir. Donc, ne soyons pas vraiment faisés par les chiffres ou bien par les choses, mais on peut toujours se mettre d'accord pour dire que nous allons organiser les élections, faire une gouvernance électorale consensuelle et concertée. Mais cette gouvernance, c'est le pire, si ça arrive, nous devons tous endosser la responsabilité. Si la réussite arrive, nous devons tous nous réjouir. Et c'est ça le bien fondé du consensus. Parce que les chiffres vont toujours venir. Mais en ce qui concerne les amis qui a demandé le poste à commencer quand, le poste commence quand la CENI, le pouvoir organisateur est déjà opérationnel. Il y a ce qu'on appelle dans le budget de la CENI, rubrique de fonctionnement, rubrique de rémunération, rubrique d'investissement, et tout ce travail doit se faire. Et c'est ça le poste électoral. Le poste électoral ne commence pas les jours où on doit aller au bureau de poste. La planification, le déploiement. Mais le fond là que nous avons dit, c'est aussi la commande des kits électoraux. Si hier on avait travaillé avec l'équipe des ETS, des Belges, le monde n'allait pas se poser. Mais nous avons changé d'ETS. Nous avons pris une autre firme. Comment on ne pouvait plus recourir aux données démographiques que les ETS gardaient des élections de 2011. Celui-ci doit aussi avoir ses propres données. Et voilà tout ce temps. Ce temps matériel. Le temps qu'on doit, le humain qu'on doit utiliser, et ça nous prend du temps. Et ce qu'on nous disons, est-ce que nous devons baisser? Oui, nous devons aller vite pour résoudre le problème de la crise de légitimité. Mais pour le faire, il faut aller en prudence et technicité et engagement. À ce moment-là, nous passons, on peut s'en sortir. En ce qui concerne les agents électoraux, ils ont formé comment? Les agents électoraux, la plupart sont formés, ils ont une formation à cascade. Une formation à cascade, ça veut dire quoi? On donne des théories pendant 3 jours et on donne la pratique pendant 4 jours, 7 jours. Est-ce que quelqu'un dans certains coins, ça c'est entre nous? Ou alors on a dû faire la différence entre le poste superviseur et l'ordinateur. Un agent comme ça, vous le recrutez et vous le formez dans 7 jours. Quel rendement va-t-il donner? Comment va-t-il maîtriser la récolte et le traitement des données démocratiques? Passer par là, nous l'avons cité en 2011, ici à la foire internationale, à la Fikine, là, tout ça, lors de compilation. L'agent vous jouait, quelqu'un qui avait 1000 voix, il ajoute un zéro, quelqu'un qui avait il ajoute un chiffre. Et à ce moment-là, on devient très dangereux. C'est là que nous avons même donné le conseil à la CENI. Il faut mettre un peu beaucoup de temps en ce qui concerne la formation des agents électoraux. On met beaucoup de jours, quand même, un bon nombre de jours, pour que ces agents puissent maîtriser. À qui ça, c'est tout le monde, mais presque tout le monde maîtrise l'outil informatique. Mais pas en province, dans le coin le plus reculé. D'où nous devons faire attention pour ne pas arriver aux élections, mais pour arriver aux élections qui résolvent le problème de légitimité, qui donne la confiance, qui reconfie la confiance de la population et non contre le pire.
Alors, on va écouter les deux auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Jérôme Bosso, vous êtes avec nous. Elie est à Bataka, nous a rejoint. Elie Lecoy, bonjour.
Oui, alors bonjour, très chers journalistes, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Papi. Je voudrais tout simplement aller très vite pour parler du problème de l'enrôlement aujourd'hui dans notre pays. Il y a aujourd'hui un problème du paradoxe du système au niveau de la classe politique. Alors, le problème de l'organisation des élections, or, de l'autre côté, il y a déjà un dialogue, un deuxième dialogue, qui, en fait, les acteurs politiques non signataires de l'accord politique ici, des cascades, qui ont refusé l'accord politique, cherchent aussi à se dialoguer afin d'une organisation des élections rationnelles dans notre pays. Mais ici, je vois que la CENI, qui se prépare en fait pour l'enrôlement, alors qu'on va aller par quelle élection et dans quel délai, c'est ça le problème. Alors que les accords politiques ont déjà prévu les élections en 2018. Or qu'aujourd'hui, il y a aussi un dialogue qui cherche à ne pas aller aux élections en 2018. Il faut que les élections se soient opérationnalisées dans les délais raisonnables ou dans les délais constitutionnels. Alors, les élections, je vais vous dire clairement, dans un état de droit, il ne faut pas chercher à nous énerver, nous sommes les peuples congolais. Étant donné que nous voyons les acteurs politiques chercher à paralyser l'appareil étatique et pour diaboliser la survie du peuple congolais, c'est encore un problème catastrophique. Je vais vous le dire clairement, étant qu'un peuple congolais, qu'aujourd'hui, il ne faut pas nous parler des élections qui, en fait, ne respectent pas les soucis du peuple congolais. Attendons que les consensus du dialogue qui en fait est conduit par par l'humain, n'est-ce pas, de la CENCO, qui cherche un peu à rassembler les acteurs politiques de la majorité de l'opposition. Nous attendons ces accords.
Voilà,
et les accords qui vont sortir de cette dialogue.
Merci beaucoup. Donc, je comprends, Élie, votre commentaire va dans le sens de pouvoir faire confiance à la CENCO qui organise déjà des négociations directes entre la majorité. Bon, c'est vrai, vous avez dit la majorité et ceux qui ont refusé l'accord. Non, mais peut-être on le dira autrement. La rencontre entre les deux parties qui repose en fait sur les points de divergence hein, de revendications des uns et des autres. Joseph, vous êtes à l'ICACI, bonjour.
Bonjour, JF.
Quelle est votre contribution, Joseph, à ce niveau du débat?
Bon, je voulais seulement saluer un peu les auditeurs de Radio Campi et l'invité. J'ai des préoccupations concernant l'invité. Quand j'ai entendu l'invité nous dire que quand un électeur entre dans une salle de vote, il prendra 5 minutes pour voter. Maintenant, ça, ce sont des faux fuyants. Maintenant, quand quelqu'un quitte de chez lui, il connaît d'abord, je vais élire le président, il a déjà le numéro de ce président. Il arrive, on lui donne les dépliants pour le président, le législatif et le municipal. Est-ce qu'il sera 7 minutes dans une salle pour voter? Ça, c'est un. Les deux. Quand le budget, pour le budget de la CENI, avant de budgétiser d'abord, la CENI connaît d'abord les séquences de chaque. Nous connaît déjà la séance de chaque déroulement de vote. Maintenant, quand il nous dit, il ne peut pas dire le montant exact pour l'élection présidentielle et législative et municipale. Ça, c'est faux. Quand on budgétise un budget, c'est on connaît d'abord la totalité des montants. Maintenant, il peut passer à la télé nous dire qu'on ne connaît pas les moyens. Maintenant, comment est-ce qu'on a budgétisé ça pour pouvoir connaître le montant? C'est ce que je voulais savoir à l'invité.
Oui, mais je crois que Jérôme Bosso l'a dit, les montants, l'ensemble du besoin, disons, couvre également toutes les opérations, à commencer par l'enrôlement, le nettoyage du fichier, il a expliqué ça des termes un peu techniques, hein, rubrique d'investissement, rubrique salaire des agents électoraux, et puis autre chose, donc voilà. Donc, rubrique des opérations, c'est ce qu'il a dit. Donc, on peut dire que ça rentre dans les cadres de l'enveloppe globale du processus. Alors, on va prendre Godefroy, qui est à Kikwit. Godefroy, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, bonjour. C'est comme je vous ai écrit, peut-être les gens qui prêtent connaissent l'angle de tel ou de tel autre épithète, je ne les condamne pas du tout, mais ils doivent savoir pourquoi il a fait ça. Il sait bien que lorsqu'il établit cette prévision budgétaire, il doit peut-être y avoir un audit. Nous avons travaillé aussi à la CENI à l'époque de l'abbé Malou, même à l'époque du pasteur. Le budget de la CENI, c'est un budget colossal. Ce n'est pas de la mer à boire. Un milliard, peut-être les gens trouvent ça peu. Notre pays est très grand. Il y a beaucoup d'argent à payer. D'abord, pour l'enrôlement, et ensuite pour les élections proprement dites. Ça, c'est pour le paiement des agents. Lorsqu'on prend encore les transports de matériel, les matériels eux-mêmes, c'est beaucoup de choses. Les transports des agents d'une province ou d'un territoire à un autre territoire, lorsque les machines tombent en panne, il faut réparer tout ça, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est un homme. C'est question de l'entendre d'abord parler, puisque vous avez dit on va l'inviter la semaine prochaine. Et c'est à ce moment-là qu'on va les juger de tel ou tel. Il ne faut pas à l'avance dire tout simplement qu'il est un aventurier ou il fait un budget colossal pour son intérêt. Non, je crois qu'il y a un audit qui peut se faire pour le sujet. Et les traiter de tel, ce n'est pas trop. Je trouve que c'est trop demandé. Il faut l'entendre avant de parler. Et après, on peut voir. Donc, on va travailler, ça demande.
Voilà, merci beaucoup. Godefroy, nous vous gardons en ligne. Hein. Ne quittez pas, restez en ligne parce que vous avez travaillé à la CENI. Vous nous donnerez peut-être quelques témoignages. Jérôme Boss également. On se retrouve juste après les flashs de formation. Donc, ne quittez pas la ligne. Godefroy et Jérôme Boss.
Parole aux auditeurs.
On poursuit avec parole aux auditeurs votre magazine d'échange citoyen et merci à vous tous qui avez lu et commenté ce sujet sur notre page Facebook. Vous êtes près de 2000 personnes en ce moment qui débattent sur notre page Facebook et sur les lettres ici au pays et à travers à l'étranger. Godefroy, avant les flashs, vous parliez donc de votre témoignage. Vous avez travaillé à la CENI et vous affirmez qu'effectivement il y a les montants, les budgets globaux pour le processus électoral, il est très colossal. Godefroy.
Oui, le budget doit être colossal. Quand vous prenez par exemple les élections de 2006, lorsque nous étions vraiment aidés par le PNUD, vous avez vu, il n'y avait pas assez de problèmes de réclamation des salaires ou des arriérés. Par contre, en 2011, jusqu'à ce jour, il y a des centres où les agents de la CENI ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Donc, vouloir prendre les budgets de la CENI à la légèreté, ou dire que ce montant est trop colossal, non, il faut avoir un peu de réserve. Nous allons attendre qu'on ait Nanga, comment il a travaillé d'ailleurs avec...
Vous étiez à la CENI, est-ce que si il vous était demandé de faire juste un petit scénario, tant la séparation de ces séquences des élections, ou encore, tant à la séquence des élections, de privilégier d'abord l'élection présidentielle, vous imaginez que l'ensemble des besoins pour l'organisation de la présidentielle seule, ça sera autour de combien à peu près?
Ça c'est un travail technique de longue haleine, mais lorsqu'on prend les élections présidentielles, même les politiciens, même de l'opposition comme la majorité, soutient le couplage d'élections présidentielles et de législatives nationales, je crois que ça peut aller au-delà de 1 milliard. Ça peut aller au-delà. Nous n'oublions pas l'enrôlement des électeurs. Là, c'est encore dans le processus des élections. C'est beaucoup de choses.
Merci beaucoup, Godefroy.
Je crois que le président Corneille Nanga est le mieux placé. Nous devons l'entendre parler d'abord, avant de le juger. C'est à ce moment-là que nous pouvons... Mais moi, à mon temps, je trouve que ce n'est pas trop colossal.
Merci beaucoup, Godefroy, d'avoir appelé et d'avoir accepté de contribuer dans cette émission. Vous avez appelé des Kikwit. Valérie, vous êtes à Kindu. Bonjour, Valérie.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs et à l'invité. Bon, moi, je pense que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce que la CENI ne nous a pas prouvé son indépendance. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que les élections devraient se préparer pendant 5 ans. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas de budget, la CENI devrait quand même crier déjà. Elle devrait déjà signaler que voilà, là, disons, il y aura un quadre vers là où nous avançons aussi longtemps que je ne reçois pas de budget. Mais au contraire, nous avons vu une CENI qui disait qu'elle ne peut rien faire aussi longtemps que le dialogue n'était pas encore tenu, alors qu'elle est appelée à être indépendante.
Oui. Est-ce que Valérie, vous êtes d'avis que la CENI elle-même, dans son fonctionnement depuis 2011 jusqu'en 2016, il y a eu quand même des difficultés, des défis à relever? Aujourd'hui, c'est vrai, Goïbou Lunda qui était la CENI en 2012-2013, si ma mémoire est très 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 bonne, 2014, et il a fallu attendre la désignation ou la réponse de la CENI telle que l'exigeaient tous les partenaires dans des processus, notamment la communauté internationale, les politiques, les partis politiques, partie prenante du processus, et tous les autres de la société civile, et qui ont demandé à corps et à cri la réponse de la CENI qu'ils ont pu obtenir autour des années de 2013-2014. Alors aujourd'hui, tout ce retard-là, ne pensez-vous pas que ça causait aussi du tort au processus?
Pas seulement parce que celui qui a la tête de la CENI ne vient pas de l'extérieur, c'est quelqu'un fils maison. Il devrait connaître, et surtout que nous sommes au troisième cycle électoral, il devrait bien comprendre déjà que par rapport à 2006 à 2011, voilà ce qu'il y a. Et puis, n'oubliez pas que pour désigner le président de la CENI, nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements au sein de la société civile. Et finalement, on n'a pas compris par un flou donné, et on nous dit, bon, voilà, c'est elle, l'église catholique a même...
Voilà, Valérie, allons droit au but.
Ok.
Oui.
Aujourd'hui, la CENI augmente le budget à 1,8 milliard. Alors qu'elle vient de 1,2 milliard. Si vous faites la comparaison, c'est sur 66%. Alors, là, moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai appris aujourd'hui, je crois, sur Okapi, qu'elle est invitée au centre interdiocésain, elle compte revoir à la baisse. Finalement, nous comprenons que la CNE est en train d'évoluer suivant les pressions politiques, donc il n'y a rien d'expertise, il n'y a rien d'expert, il n'y a rien d'indépendant.
Voilà, nous vous rappelons que le président de la CNE depuis hier était à la CENCO, là où, au centre interdiocésain, là où se tiennent ces négociations directes, raison pour laquelle aujourd'hui, il était notre invité, il s'est excusé en nous demandant, nous, l'équipe des paroles aux auditeurs, de lui accorder la parole donc la semaine prochaine pour qu'il explique, qu'il donne aussi sa voix par rapport à tous ces processus, par rapport à tout ce qu'il a déclaré, les besoins et son intervention même de la CENCO et pourquoi pas l'accord qui sortira de l'harmonisation des divergences de points de vue des signataires de l'accord du 18 octobre et les ceux qui n'ont pas participé à ces assises de la cité de l'Union africaine. Donc attendons voir Valérie, la semaine prochaine, peut-être nous aurons toutes les l'éclairage sur toute cette question. Maître Bachaka, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue.
Bonjour M. Gir, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole, quelle est votre
question? Merci beaucoup M. Gir, moi je m'étonne de M. Corneille Nanga, M. Gir, puisque aujourd'hui je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui vous êtes ingénieur, on vous appelle pour la continuité d'un immeuble qui quelqu'un a déjà commencé. Mais avant de s'engager avec les propriétaires de l'immeuble, vous devez d'abord évaluer les travaux qui viennent là-bas et vous serez à mesure de terminer ces travaux ou bien de corriger les erreurs que vous avez trouvées sur ces immeubles-là. Mais ce qu'on est là, il a hérité de quelque part. Et quand on l'a mis là-bas, est-ce qu'il n'a pas pu voir qu'à la longue, il peut être évité à ce tel problème? Ce n'est pas aujourd'hui, à la veille des élections, que M. Corneille Nanga devait venir nous présenter les difficultés, soit disant que non, et techniquement, les histoires sont prêtes, mais c'est que le plan financier, il est bloqué, M. JR. Nous devons être conséquents. Et ce que moi, je peux rappeler aux politiciens congolais, M. JR, il est quand même le cœur de Dieu, puisque tout ce monde là-bas, ils ont des églises, hein, ils vont à l'église. Les péchés, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un avec les civils, mais c'est bien. Tuer quelqu'un même psychologiquement, comme nous, les peuples congolais, nous souffrons aujourd'hui, mais c'est bien. Tous nos politiciens seront jugés par les créateurs du bien, mais c'est bien. C'est ce que je voulais rappeler à tous les politiciens, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. Il est quand même le cœur des hommes, hein, et voir comment est-ce que les peuples congolais souffrent, mais c'est bien.
Merci beaucoup, Maître Machaka. Jérôme Bosso, on revient à vous. Après avoir suivi de près donc cet échange citoyen avec les uns et les autres, alors qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Est-ce faisable qu'on puisse revoir ce budget à la baisse et juste après les négociations directes qui se tiennent en ce moment au centre interdiocésain, que les calendriers soient publiés, pour permettre à ce qu'on aille vite aux élections, Jérôme?
Le budget n'est pas, les écritures budgétaires ne sont pas les paroles de l'évangile ou de la Bible. On peut toujours les sacrifier. Il y a certaines rubriques budgétaires qu'on peut sacrifier ou bien qu'on peut réduire pourvu qu'on puisse atteindre les résultats. Le résultat, c'est l'organisation des élections apaisées. Mais attention, il ne faut pas le faire pour faire. Il y a des déclarations, mais ce sont des affaires beaucoup plus techniques. Si on va défavoriser une des rubriques qui voulait être importante pour atteindre l'objectif, le résultat positif des élections, attention, il faut faire attention. Mais enfin, nous disons, attendons l'option qui sera levée de façon consensuelle, parce que nous avons voulu privilégier la gouvernance électorale consensuelle et concertée, et c'est de là que nous allons nous mettre ensemble pour qu'on puisse aller vite à l'essentiel, mais pas trop vite, en risquant de se casser les gueules. Parce que nous avons vu, vous connaissez l'expérience amère de 2011, il y avait de même pression, de chantage pour les élections, et quand on a publié les résultats des élections de 2011, et tout le monde a pris la responsabilité, et la responsabilité était jetée sur la commission électorale indépendante, dont on a demandé sa dissolution et le départ de son président. Ne commettons pas la même erreur des années de 2011. Et si nous disons, le problème de budget ne peut pas se poser. Quand la volonté y est, on va s'en sortir. Mais les amis qui disent que la communauté doit donner les élections, ils font non. Attention, les élections réservent la souveraineté de l'État.
Moi, je suis allé autant de continents, la plupart des pays qui sont fiers et jamais de souveraineté. Ne recourent pas au financement extérieur. Et nous sommes capables de mobiliser l'argent ici à l'intérieur pour financer nos élections. Attention, donc nous devons faire l'effort. Si c'est le gouvernement qui va sortir pour dire l'argent, il y a aussi un autre quelqu'un qui a parlé du budget. Mais le budget pour les élections, nous allons faire le budget n'est pas encore voté. Le budget n'est pas encore voté. On demande l'élection, mais avec le budget, il faut que le gouvernement vote le budget. Et les partenaires internationaux interviennent. Qu'est-ce que vous avez à prêter? Nous n'avons pas encore à prêter le budget. Tout ça, ce sont des problèmes qui poseraient qui nous prendraient encore du temps. La mienne parlé 7 minutes. C'est dans un bureau de vote, mon cher ami. Dans un bureau de vote, on n'entre pas comme on entre à l'église, on entre, on fait la croix et on se met.
Voilà, Jérôme, on est obligé de vous arrêter tout de suite parce que, bon, les temps fait défaut. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe de production qui a concouru à la réalisation de ces magazines Parole aux auditeurs, cadre d'échange citoyen. Merci à vous tous qui avez participé à ces débats ici au pays et à l'étranger. Jean-Claude Cala avait assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et qui était en même temps au standard de ce programme supervisé par Martin Seboujangwe et coordonné présenté par J.R. Lungembo Lwabung Angie. À très bientôt pour un autre numéro.